Quand j'apprenais l'histoire, la géographie, l'Égypte n'était pas un pays plus important qu'un autre. Par contre, pour les Juifs, c'est tout un symbole, celui de la captivité de leurs ancêtres qui fut suivie d'une libération éclatante dont l'écho retentit encore aujourd'hui. Je continue à lire dans le chapitre 9 du livre de Daniel. « Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante. » Et tu t'es fait un nom qui subsiste jusqu'à ce jour. Mais nous, nous avons péché, nous avons fait le mal. » Verset 15. Et maintenant, indique un changement de ton. Après avoir reconnu la grandeur, la miséricorde et la justice de Dieu, et confessé les péchés de son peuple, Daniel en vient doucement à la raison précise qui a motivé sa prière. Mais juste au moment où il s'apprête à demander la restauration d'Israël, Daniel rappelle à nouveau le péché d'Israël et surtout la grandeur de Dieu qu'il a manifestée par l'œuvre libératrice de l'Exode en Égypte. C'est par ces hauts faits de guerre qu'à cette lointaine époque, l'Éternel s'est fait connaître d'une manière mémorable à toutes les nations du Moyen-Orient. « Seigneur, selon tous tes actes de justice, veuille détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en butte au mépris de tous ceux qui nous entourent. » Verset 16. Certes, les Israélites sont gravement coupables et l'un des actes de justice de l'Éternel a été de les exiler en Babylonie. Mais Dieu doit également se montrer juste en tenant les engagements qu'il a pris à l'égard de Jérusalem, du Temple et d'Israël. Daniel va donc s'appuyer sur la justice de Dieu pour faire une triple requête en faveur de la ville sainte, du sanctuaire et du peuple choisi. Et Dieu va répondre favorablement aux trois requêtes. Je continue. « Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et considère nos ruines, regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. » Versets 17 et 18. Ce second « maintenant » indique un redoublement de ferveur dans la prière. Après avoir supplié l'Éternel de détourner sa colère et son indignation de Jérusalem, Daniel lui demande d'avoir pitié du sanctuaire et de Jérusalem en ruine. Ici, il appuie sa demande sur la miséricorde divine envers l'homme pécheur, repentant, et que c'est l'un de ses attributs auxquels on peut toujours s'accrocher. En second lieu, Daniel rappelle à l'Éternel que sa réputation et son honneur sont en jeu parce qu'ils sont étroitement associés à la fois au temple et à la ville sainte. Il faut bien voir que ce ne sont jamais nos mérites, mais la grâce de Dieu qui nous permet d'obtenir une réponse à nos prières. Lorsque les Hébreux gémissaient et criaient sous le poids de l'esclavage en Égypte, un texte dit que « Dieu entendit leurs plaintes » et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Je continue le texte. « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, pardonne, Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. » Verset 19. Daniel ne prie pas distraitement du bout des lèvres, mais s'est lancé coriam dans une supplication intense. Même si le temple et la ville sainte sont détruits et le peuple en exil, il n'en demeure pas moins associé pour toujours au nom de l'Éternel. Ce dernier a engagé sa responsabilité quand il a choisi pour peuple les descendants d'Abraham, puis Jérusalem et le temple. Daniel ne manque pas d'arguments et les utilise à bon escient pour fléchir Dieu. Cette prière de Daniel a des points communs avec celle du prêtre Esdras et du gouverneur Néhémie. Certaines expressions sont très voisines parce que ces trois hommes ont fait les mêmes expériences avec Dieu, que ce soit avant ou après l'exil. Les trois prières sont des cris d'angoisse et des confessions de péché où leurs auteurs s'identifient totalement avec leur peuple. Daniel et Esdras souffrent pour Israël à cause de son péché dont ils se sentent solidaires et même responsables, bien que ni l'un ni l'autre n'y aient pris la moindre part. Ceci dit, la supplication ardente de Daniel se distingue des deux autres en ce qu'elle a un objectif précis, la restauration du peuple, du temple et de la ville sainte. Je continue. Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël et en suppliant l'Éternel, mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne. Verset 20. Les Écritures ne mentionnent aucune faute de Daniel et lorsque ses ennemis ont fouillé dans sa vie pour essayer de trouver quelque chose, ils sont revenus bredouilles. Ceci dit, il ne fait aucun doute que Daniel était un homme pécheur comme vous et moi. Seulement, ce qu'il confesse dans cette prière, ce sont les péchés de son peuple auxquels il s'identifie complètement. Même s'il ne les a pas personnellement commis, il est suffisamment humble pour reconnaître qu'au final et en d'autres circonstances, il n'est pas vraiment meilleur que ses contemporains. Plus encore que le retour du peuple israélite de l'exil, ce que Daniel désire, c'est l'établissement du règne parfait de la sainteté divine, représenté par la montagne de Sion, sur laquelle le temple est érigé. Il demande donc ni plus ni moins que l'instauration du millénium et d'une certaine manière, il s'adresse à Dieu comme dans la célèbre prière du Notre Père que Jésus enseigna à ses disciples, où il dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Tout porte à croire que Daniel pensait qu'à la fin de l'exil, Israël retournerait dans son pays, le Messie viendrait et le royaume qui avait été promis à David serait établi. Seulement, les deux révélations précédentes qu'il a reçues ne cadrent pas avec ce qu'il espère. En effet, elles annoncent la venue d'empires païens qui, à commencer par Babylone, se succéderont dans l'avenir et avec lesquels Israël aura maille à partir. Je continue. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Verset 21. L'offrande du soir ou oblation était l'un des deux holocaustes quotidiens obligatoires. D'après la tradition, il avait lieu aux environs de 15h30 et était l'occasion d'un temps consacré à la prière. Je continue. Il s'entretint avec moi et me donna des explications me disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. » Versets 22 et 23. La rapidité de l'intervention de Gabriel atteste que la prière de Daniel a été entendue et que Dieu désire l'exaucer. Dès que Daniel a prié, un message a été émis, c'est-à-dire que Dieu a parlé et donné l'oracle qui va suivre comme réponse à la supplique de Daniel. Dès que Daniel a commencé à prier, Gabriel a été envoyé pour lui annoncer ce qui arrivera à Israël dans la suite des temps et jusqu'à la venue du Messie. L'exaucement immédiat de Daniel sera également le privilège des habitants du millénium. Je lis un passage. « Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. » Fin de citation. Daniel est appelé bien-aimé parce que Dieu le juge digne de la faveur de recevoir et de communiquer aux autres le message qui va suivre. Mais il faut bien comprendre que Daniel était un homme intègre qui a obéi, souffert, prié et supplié Dieu. Le choix de l'Éternel et la préférence qu'il lui témoigne ne sont donc pas arbitraires. Ceci dit, il nous faut aussi garder à l'esprit que tout ce que Dieu fait, pour qui que ce soit, est toujours un acte de sa grâce. Je continue. Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour la ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction au sein des saints. Verset 24. Cette période de 70 septaines a été décrétée pour le peuple de Daniel, c'est-à-dire Israël, et pour la ville sainte. Cette prophétie, aussi complexe que précise, ne concerne donc ni l'histoire du monde, ni l'Église, mais révèle ce qui arrivera à Israël à la fin des temps. La nation juive est impatiente de voir se réaliser le bonheur promis, mais elle doit apprendre qu'à partir du décret du retour d'exil, une période longue de 70 septaines d'années, soit 7 fois les 70 ans de captivité, la sépare encore de l'apparition du salut messianique. Gabriel révèle à Daniel deux séries de prophéties à 3 volets chacune. La première annonce la destruction du mal sous toutes ses formes et du péché en particulier en 3 expressions qui sont mettre un terme à la révolte contre Dieu, en finir avec les péchés et expier la faute. La deuxième série annonce l'établissement de la perfection et du royaume messianique en particulier en 3 expressions qui sont instaurer une justice éternelle, accomplir vision et prophétie et conférer l'onction au sein des saints. On peut aisément constater une corrélation, surtout dans les termes hébreux, entre le premier volet et le quatrième, entre le second et le cinquième, et entre le troisième et le sixième. Le calendrier des fêtes israélites culminait le jour du grand pardon appelé Yom Kippour. Ce jour solennel, toute la nation s'assemblait devant l'Éternel et s'humiliait devant lui en reconnaissant ses fautes et sa culpabilité. Le grand prêtre offrait alors un sacrifice qui couvrait les péchés pendant 12 mois, mais qui ne les enlevait pas. En conséquence, il était nécessaire qu'une autre sorte de sacrifice soit offerte à Dieu qui ôterait vraiment tous les péchés accumulés depuis la nuit des temps. C'est Jésus-Christ qui, par sa mort, a fait la propitiation et l'expiation de tous les péchés, non seulement des Juifs, mais du monde entier. La justice de Dieu ayant été satisfaite sur la croix, il peut dorénavant être et se montrer parfaitement juste, tout en pardonnant les pécheurs qui se repentent, en effaçant et oubliant leurs fautes et en les déclarant justes, alors qu'ils ne le sont pas le moins du monde. À la fin de ces 70 septaines, Dieu mettra un terme à la révolte des Israélites contre lui. C'est alors qu'ils le reconnaîtront comme leur Messie et Sauveur et qu'ils seront rétablis à tout jamais dans leur pays et bénis de Dieu. L'expression « en finir avec les péchés » veut dire « sceller par un châtiment ». En d'autres mots, les fautes d'Israël qui n'avaient pas été punies vont l'être une bonne fois pour toutes. Ce jugement a eu lieu lorsque Jésus a été crucifié et à la fin des temps, quand il reviendra, il ôtera le péché d'Israël en le pardonnant, ce que lui seul peut faire, car il en a porté tout le poids. La troisième expression, expier la faute, continue la même pensée, car c'est une nouvelle référence à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Le roi David a écrit « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné ». Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Mais ce bonheur ne sera que pour le petit reste fidèle du peuple israélite qui, au retour de Jésus-Christ, entrera dans le millénium. La deuxième série de prophéties à 3 volets affirme les aspects marqués positifs du programme de l'Éternel envers son peuple. La justice de Dieu ayant été satisfaite par la mort expiatoire du Christ, il instaurera une justice éternel. Au travers du règne du Messie, il amènera sur terre l'ère de justice parfaite à laquelle, de toute éternité, l'humanité était destinée mais qu'elle ne pouvait pas produire d'elle-même. Il s'agit à la fois d'une conduite personnelle droite et de la justice telle qu'on l'entend généralement, mais elle sera équitable, expéditive et selon la vérité. En second lieu, l'Éternel accomplira vision et prophétie. Le verbe utilisé veut dire « sceller » dans le sens de « terminer » et « mettre de côté ». toutes les promesses que l'Éternel a faites à Israël depuis Abraham se réaliseront. Finalement, l'Éternel conférera l'onction au Saint des Saints. Dans l'Ancien Testament, le Saint des Saints était la partie du sanctuaire où résidait Dieu. Elle était inaccessible sauf au grand prêtre le jour du grand pardon. Mais cette expression désignait couramment le temple dans son ensemble. L'onction du Saint des Saints est donc la consécration du nouveau temple qui sera en service pendant le millénium. En résumé, on peut dire que la première série de prophéties à trois volets s'est potentiellement accomplie lors de la première venue de Jésus, mais ne sera appliquée à Israël ainsi qu'aux autres croyants que lors de sa seconde venue. Et la deuxième série sera réalisée quand le Christ établira son règne de 1000 ans sur terre. Je continue le texte de Daniel. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septennes et 62 septennes. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. Verset 25. Cette prophétie est la seule de l'Ancien Testament qui indique le moment exact où le Messie se présenta officiellement comme roi à la nation d'Israël. C'est ce qui correspond au jour des rameaux qu'on commémore le dimanche avant Pâques. Le point de départ de cette prophétie est un décret. Or, on sait que les empereurs perses en ont émis 4. Le premier par Cyrus, le second par Darius, mais ce n'était qu'une confirmation du précédent. Le troisième et le quatrième décret furent promulgués par Artaxerxès. Ces souverains n'avaient pas spécialement un grand cœur, mais comme leurs prédécesseurs babyloniens, ils avaient compris que l'Éternel, le Dieu des Hébreux, était puissant et qu'il valait mieux le mettre de son côté. D'ailleurs, Darius l'a très bien compris quand il a ordonné à ses subalternes « Vous fournirez chaque jour aux prêtres de Jérusalem tout ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu du ciel, afin qu'ils offrent des sacrifices apaisants au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. » Des 4 décrets, les 2 premiers concernent uniquement la reconstruction du temple et le 3e accorde les finances nécessaires pour offrir les sacrifices. Le 4e, par contre, est celui qui autorise les Juifs à rebâtir les murailles de Jérusalem et d'en faire à nouveau une place forte. Les Juifs avaient déjà commencé cette reconstruction de leur propre initiative après le premier décret d'Artaxerxès, mais suite aux plaintes des peuplades environnantes, l'empereur leur avait alors interdit de continuer jusqu'à qu'il leur en donne expressément l'autorisation. Il a envoyé une missive au gouverneur régional disant « Prenez donc des dispositions pour ordonner à ces gens de cesser leurs travaux pour que cette ville ne soit pas rebâtie tant que je n'en aurai pas donné l'ordre. » Une des caractéristiques des empereurs perses et mèdes est qu'ils ne révoquaient jamais un décret émis par eux ou par l'un de leurs prédécesseurs. Or, dans la missive que je viens de citer, Artaxerxès interdit la reconstruction de Jérusalem, ce qui prouve bien que les 3 premiers décrets perses ne concernaient pas la remise en état de la ville sainte. Nous avons donc la preuve irréfutable que le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué par Artaxerxès et nous en connaissons également la date qui est le 14 mars de l'an 445 avant Jésus-Christ suite à une requête de Néhémie. L'objet de cette prophétie est d'annoncer quand le chef ayant reçu l'onction, c'est-à-dire Jésus-Christ, se présentera à Israël. L'ange dit que ce sera dans 7 septennes et 62 septennes, soit dans 483 ans. Les 7 septennes, soit 49 ans, correspondent au temps qu'il a fallu aux Juifs pour entièrement reconstruire Jérusalem et en faire à nouveau une place forte, ce qui inclut les fortifications, les douves, les places et les habitations. Ce fut très long parce que selon le livre de Néhémie, Les Juifs ont vécu des temps de détresse à cause des peuplades qui habitaient la Palestine et qui faisaient tout pour les arrêter dans leur travail. Pour déterminer quand ces 483 années se sont terminées, il faut tenir compte du fait que les Juifs, comme les anciens peuples des Indes, de Perse, de Babylone, d'Égypte, de Grèce, d'Amérique centrale et de Chine, utilisaient des années de 360 jours et non pas de 365 façon calendrier grégorien comme nous. Toutes les écritures suivent ce modèle. 483 années égale 173 880 jours. Si on compte à partir du décret d'Artaxerxès, le 14 mars 445, on arrive au 6 avril 32, qui correspond à ce qu'on appelle l'entrée triomphale ou le jour des rameaux. Ce jour-là, Jésus s'est présenté comme roi à la nation d'Israël, ce que les disciples ont très bien compris, mais pas les chefs religieux qui étaient jaloux à mourir. Et parce que Jésus fut officiellement rejeté, il pleura sur la ville de Jérusalem, car il savait qu'elle serait entièrement détruite quelques années plus tard par les Romains. J'ai coutume de dire que chacun est libre de rejeter le Seigneur, mais pas les conséquences.